France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La sole normande.
Oui.
La sole normande à Martigues. Laissez-moi un peu rire.
La sole normande, c'est très bon.
Avant, c'était un restaurant qui s'appelait À la vraie bouillabaisse.
Des poissons, tout prêt.
Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine avec ton huile?
Une cuisine, il y a la place pour deux, non?
Ah, mais c'est ce qui te trompe, toi, l'huile, tu sais ce que c'est. Mais monsieur l'ignore.
Voilà ce que j'en fais, moi, ton huile.
Oh, mais alors?
Il y a des arêtes là-dedans? C'est possible, ça s'appelle du poisson.
Celui qui le mangera sera malade.
Et pourquoi donc, je vous prie?
Je pense qu'il est pas frais, ton poisson.
Pas frais, mon poisson?
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, attention, leçon poisson. Je vous raconte comment est née cette émission. J'ai eu récemment deux coups de cœur pour deux livres de recettes portés par deux chefs que je connais bien et que j'apprécie humainement et culinairement. On a décidé de les inviter pour un match amical sur leur terrain de prédilection, la cuisine de la mer. Gaël Aurieux, Sylvain Rouquayrol, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Gaël, vous êtes le chef de Auguste, un restaurant gastronomique tourné vers la mer, une étoile Michelin. Vous nous en rappelez l'adresse ?
54 rue de Bourgogne, Paris 7e.
Et vous fêtez quand même les 20 ans de cet établissement.
Et oui, 20 ans. J'ai démarré le 17 janvier 2005 et ça fait 20 ans passé maintenant.
Voilà, incroyable.
Quelques jours.
Et vous avez signé un livre qui vient d'être réédité, parce qu'il date en fait de quelques années.
Oui, il date de 2016 et il vient d'être réédité parce qu'il a bien marché un peu partout, même en Europe.
Et ouais, c'est un vrai succès. Et comment cuisiner la mer aux éditions de La Martinière avec les textes de Julien Bourret et les photographies de Jean-Claude Amiel. Aux éditions de La Martinière, et c'est un livre avec de très nombreuses recettes et des fiches signalétiques sur les espèces marines. Sylvain Rouquayrol, vous êtes le chef de Tuba Club à Marseille, le restaurant qui affole littéralement les gourmets du monde entier, un restaurant les pieds dans l'eau, dans le village de pêcheurs des Goudes, on va en parler évidemment, et vous signez Fiche, cuisiner le poisson de Marseille à Tokyo aux éditions du Chêne, avec les photos et le graphisme signé de votre femme.
Eh bien oui, c'est un livre en collaboration avec ma femme de l'année. Donc on a mis 2 ans à élaborer le projet. C'est un livre de voyage aussi, de photos et évidemment de poissons.
On va en parler ensemble. C'est un livre que je ne cesse de feuilleter et de scruter depuis sa sortie en décembre dernier. Il y a des recettes, des adresses, comme vous le dites, de très nombreux contenus, des schémas sur la pêche. Bref, c'est vraiment un livre passionnant. Alors, Gaël et Sylvain, on vous lance un défi. J'ai presque envie de dire un défiche, si vous voyez ce que je veux dire. Cuisiner du poisson blanc, du poisson bleu, quelques coquillages et crustacés, en cru, en cuit, dans un temps limité, et en nous présentant des assiettes que je vais départager avec mes deux compagnons du jour, Elvira Masson, Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
On va déguster ensemble, évidemment, vous êtes là pour ça, hein. Il va falloir faire fonctionner vos papilles.
On va pas se faire prier.
Mais vous allez aussi mettre votre grain de sel dans cette émission, Elvira.
Bah, j'ai un conseil pour vous. C'est pas le moment d'arrêter de fumer.
Ouh là là, du poisson j'espère.
Bien sûr.
Ah. Jérôme.
Eh bien nous allons déguster et découvrir un vin qui a la gueule de l'endroit pour reprendre l'extraordinaire et l'incroyable Jacques Puiset.
Et ce vin est déjà en train de parader dans nos verres avec une très jolie robe ensoleillé, on va dire.
Exactement.
On va voir ça tout à l'heure. Pour accéder à tous nos contenus, nos recettes de poissons, nos adresses, le podcast de toutes nos émissions et de toutes nos chroniques, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Chers amis, juste avant d'aller au bord de la mer, je vous propose de faire un mini détour par la montagne, à l'heure où de nombreux vacanciers ont rejoint les stations de sport d'hiver. Direction les Alpes suisses. Eh bien, je me suis attablé dans une adresse totalement étonnante. Est-ce que vous aimez la raclette, Sylvain ?
Bah, j'adore ça. J'adore le fromage en général.
Ah, donc il n'y a pas que le poisson dans votre vie de gourmet ?
Non. Bah, chez Tuba Club, il n'y a que du poisson, mais chez moi, il y a aussi du fromage.
Très bien, Gaël.
Moi aussi, j'en mets un peu partout, de façon, du fromage.
Une bonne raclette, c'est merveilleux.
Ah, et bien là, je vais satisfaire vos palais, je vois.
J'adore, moi.
Un énorme sourire.
Oui, j'adore ça. Ouais.
Le chalet où je vous emmène revendique la meilleure raclette du monde. Et on n'est probablement pas loin de la vérité.
Hello, bonjour. Alors moi, c'est Eddy Bayfar, fromager et ambassadeur de Raclette du Valais-AOP.
Où sommes-nous ici ?
À Bruzon, à 1100 mètres d'altitude, dans le Val de Bagne. Village touristique, et il y a une petite station de ski au-dessus du village.
Il y a une belle vue sur les montagnes, là.
On est en face de Verbier. En 2015, j'ai eu l'idée d'ouvrir le Raclette House avec mon épouse, parce que j'ai été victime d'un accident, j'ai dû stopper ma fabrication, et c'est du coup mon fils qui a repris la fabrication le lendemain de mon accident. Alors ici, on fait la raclette tous les jours. C'est les sonnettes, on n'appelle pas ça des cloches, chez nous c'est des sonnettes. Il n'y en a pas deux qui ont le même bruit, c'est comme ça que les vaches se reconnaissent.
Qu'est-ce qui fait l'excellence, la réputation de la raclette suisse et en particulier la raclette du Valais ?
Alors raclette suisse, c'est un raclette pasteurisé. La raclette du Valais est au lait cru, ça veut dire qu'on a conservé toutes les flaveurs, on n'a pas fait subir de traitement thermique au lait avant sa transformation. Alors ils ont au minimum 3 mois, il faut quand même prolonger l'affinage jusqu'à 5-6 mois et là ils seront au top. Bien évidemment qu'on va vous servir la meilleure du monde ici. Toujours chauffer les assiettes. Il n'y a rien de plus détestable qu'une bonne raclette chaude dans une assiette froide. Ensuite, il faut s'équiper judicieusement d'un bon couteau. On racle du côté non tranchant et on garde le côté tranchant pour la religieuse.
La religieuse ?
Alors la religieuse, c'est les petits bords grillés. Ah. Au Moyen-Âge, c'était la classe aristocratique qui pouvait se permettre de manger la raclette. Et dans les monastères, c'était les curés, les prêtres qui s'envoyaient la raclette tous les dimanches. Et ils tiraient de côté les bords brûlés, les talons. Ils les mettaient de côté pour les sœurs religieuses qui venaient les récupérer le lundi matin pour faire la soupe des pauvres.
Alors là, vous disposez une demi-meule sur un support.
On présente au feu. On laisse 2 cm... entre la tranche du fromage et le corps de chauffe. Et après, il faut être à son affaire. Quand vous avez mis fond de votre fromage, vous ne devez plus que vous occuper de ça. Vous voyez que le fromage commence à faire des bulles. Un seul racleur, il peut faire 50 personnes tout seul, avec ce type d'appareil.
Ça crépite.
Dès que ça commence à caraméliser, on retire du feu et on tire sa raclette. Je saisis mon fromage dans la main gauche, je penche à 45 degrés, et d'un geste rapide et sûr, je tire la raclette.
Ah ouais.
Et avec la raclette, on sert une petite pomme de terre en robe des champs, cornichons, oignons et une petite salade à l'oignon. Basta, rien d'autre. On sert jamais la raclette dessus la charcuterie ou dessus la salade. Et voilà, elle est pas belle la vie.
Voilà, bienvenue chez Raclette House. Je vous laisse apprécier ce jeu de mots un brin foireux. Housse de raclette, ah, oui, okay. Raclette House. Non, vous l'avez ou pas ?
Ah, je l'avais pas, non, c'est remarquable. Là, ouais.
Mais ce qui n'est pas du tout foireux, en revanche, c'est la raclette du Valais, une vraie raclette de compétition, au lait cru, fabriquée artisanalement dans la famille, qui est servie dans les assiettes chaudes. Et le premier qui réclame de la charcuterie, c'est clair, il a un gage, il fait 3 fois le tour de la maison tout nu, dans la neige. La charcuterie avec la raclette, comme dirait Eddy, c'est bien un truc de français.
Ça, pour un Suisse et un Valaisan, c'est tout est dit, là, globalement.
Voilà, pas de charcuterie avec la raclette. Vous êtes d'accord avec cette règle suisse ou pas, Gaël Aurieux ?
Moi, j'aime bien quand même un petit point de charcuterie.
Ben voilà. Alors on mettra un petit peu
de... On va le faire à la française.
Exactement, on le fera à la française. À la barre de cette émission, derrière la console, Laurent Thomas, Tiffany Battistel, Fabrice Rivaud. Notre duel de poissons, juste après le code de biche choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Sur l'écran s'affiche le monde.
Montent sur le ring et vont ferrailler autour d'une petite bataille de recettes marines. À ma gauche, Gaël Aurieux, le chef du restaurant Auguste Paris 7e, âge 53 ans, origine Maine-et-Loire. À ma droite, Sylvain Roquerolle, le chef du Tuba Club sur le port des Goudes à Marseille, âge 37 ans, origine Aveyron. Vous avez un point commun, Gaël et Sylvain, vous avez tous les deux le pied marin, puisqu'en plus de la cuisine, vous avez une vraie passion liée à la mer. En lisant votre CV, on peut trouver, Gaël Aurieux, que vous avez une passion pour la plongée sous-marine.
Oui, ça c'est depuis tout petit. J'ai toujours une passion pour ce goût de l'eau de mer dans la bouche. J'adore cette sensation de comme quand on boit la tasse. Et j'ai toujours aimé cette saveur depuis toujours. Et ça se retranscrit un peu maintenant dans ma cuisine.
Sylvain Roquerolle, vous aimez l'OM, vous aimez le tennis. Et j'apprends aussi que vous avez une vraie passion pour la voile. Vous êtes un voileux.
Alors, j'ai la chance d'avoir une place au port des Goudes. Alors, j'ai quelques régates à mon actif, mais pas en tant que capitaine.
Et vous avez un bateau, je crois, avec votre ami Léo.
C'est ça.
Et vous faites aussi des sorties au coucher du soleil. Vous posez l'ancre dans les calanques.
Ben, en ce moment, on peut même s'ouvrir quelques oursins. Un petit peu de beurre, une bouteille de blanc, c'est la folie.
Magnifique. Et puis, votre autre point commun, c'est que vous sortez tous les deux, à quelques semaines d'écart, deux formidables bouquins sur la cuisine de la mer. Alors, Gaël Aurieux, c'est une réédition, effectivement, et ce fut un très grand succès. On vous avait reçu il y a quelques années, ça ne nous rajeunit pas, autour de ce bouquin. Il a changé de format, il est réédité, 70 espèces, 90 recettes, ça s'appelle Cuisiner la mer, aux éditions de La Martinière. Et c'est vrai que c'est un livre qui est dans de très nombreux foyers français.
Eh ben oui, je suis très fier qu'il soit réédité parce que ça veut dire qu'il a marché déjà, il continue à marcher. Mmh. Là, il a été édité sur un nouveau format éco-responsable. Et voilà, je suis très fier de toute cette démarche que j'explique dans le livre qui, j'espère, va être mis en avant. Comment bien choisir son poisson comme une cueillette. En gros, c'est qu'est-ce que la nature peut nous apporter sous l'eau. Discuter avec nos poissonniers, avec tous les gens qui vont chercher cette pêche pour nous amener des poissons de saison ou des crustacés, voilà, pour cuisiner au plus près de la mer.
Très bien, et ben vous allez nous montrer, nous faire goûter justement un aperçu de votre livre. Il y a un autre bouquin qui fait beaucoup parler de lui, je peux même vous dire qu'il démarre sur les chapeaux de roue. Il se trouve que je connais un peu votre éditeur, Emmanuel Levallois, qui m'a confié les premiers chiffres de vente, et c'est un carton, tout simplement, ça s'appelle Fiche, et c'est un carton mérité, car c'est un livre superbe, et je pèse mes mots. C'est à la fois un livre de recettes, un carnet de voyage. C'est un recueil d'adresses, c'est vraiment une espèce de livre hybride, superbement illustré. Il y a la collaboration avec Delaney Inamine, dont vous partagez la vie, hein, c'est ça ?
C'est exactement ça, c'est ma femme.
Qui est d'origine étrangère ?
D'origine américaine, de papa japonais et maman hollandaise.
Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est en quelque sorte un petit tour du monde, en plusieurs escales, de la culture culinaire, du poisson, de la pêche. Alors il y a Marseille évidemment qui est votre port d'attache, puisqu'on a dit que vous étiez le chef du Tuba Club, mais il y a d'autres villes que vous explorez.
C'est ça, donc il y a Marseille, Lisbonne, Barcelone, San Francisco, Naples et Tokyo.
Vous avez exploré évidemment les grandes recettes totémiques, les façons de pêcher le poisson, la vraie culture poisson en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est un livre culturel.
Et oui, on l'explique dans les premières pages, on s'est évidemment adapté au lieu où on allait, donc dans les villes, on a fait les marchés, on a fait les petites épiceries, on allait manger dans les restaurants, donc tout cela, ça inspire beaucoup. Mais c'était aussi la chance de pouvoir travailler des poissons différents. Il y a la Méditerranée, on a l'Atlantique, on a le Pacifique. Évidemment, on y a aussi des épices qui diffèrent de façon de travailler le poisson. Alors, il y a beaucoup de crus dans le livre parce qu'on aime beaucoup ça. Et on a dû s'adapter aussi à des situations parfois assez rigolotes parce qu'on a tout fait sur place. Et donc, c'était de Airbnb en hôtel, comme on pouvait, quoi. Même chez l'habitant parfois aussi. Donc, ça a été une vraie aventure qui a duré presque 2 ans. Et on en garde un souvenir impérissable.
Et les plats que vous servez au Tuba Club portent en fait... des souvenirs de voyage en quelque sorte. Elvira, c'est un lieu que vous connaissez bien à Marseille.
Ah oui, moi je me suis régalée l'été dernier, notamment avec un tourteau maillot yuzu, avec une chair comme ça très bien assaisonnée, avec un carpaccio de céréoles, abricots, piment habanero, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est tout à fait
ça. C'était vraiment très juste, à la fois délicat, plein de goût, et puis plein de goût aussi d'ailleurs. Quoi.
Avec vraiment les pieds dans l'eau. Hein.
Ah ouais.
Vous êtes prêts pour ce petit match amical des recettes de poisson, chers amis, ou pas ?
Prêt.
Alors, je vous propose la règle du jeu. Un duel en 3 manches avec au menu du poisson blanc, du poisson bleu, plus quelques coquillages et crustacés que nous avons choisis avec notre expert de la mer, Charles Guiriec, le fondateur de Poiscaille, c'est le circuit court de la mer. Il nous a livré aujourd'hui même du poisson. Comptez sur lui pour qu'il soit tout frais, bien capturé par ces petits pêcheurs français dans le respect des saisons et des écosystèmes marins. Donc on vous impose un peu quand même des espèces marines que vous allez cuisiner pour voir ce que vous avez dans le ventre. Et on va commencer avec l'épreuve numéro 1 autour du poisson blanc. Sylvain Rouquayrol, vous tombez sur du mulet. Et voici ce que nous en dit Charles Guiriec. Ces mulets ont été pêchés au filet droit par Sylvain Inguileri à Port-Saint-Louis-du-Rhône en Camargue. Tous les mulets sont à valoriser, ce sont des poissons d'hiver abondants et contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas des poissons vivant dans les eaux polluées des ports. Les bars vivent aussi dans les ports, mais on ne les voit pas. Et le mulet, il a en plus ceci d'intéressant, c'est qu'on le trouve en ce moment entre 5 et 20 euros le kilo sur les étals. C'est donc un poisson tout à fait intéressant. Ça vous va ou pas le mulet, Sylvain ?
Moi j'adore ça, c'est vrai que c'est un poisson qui est très abordable, une chair qui est très très bonne. On en trouve également à Marseille aussi. C'est très très bon cuit, et cru également.
Très bien, et vous avez décidé de nous faire quoi avec ce mulet ?
Un carpaccio.
Eh bien, vous allez rejoindre le plan de travail du studio 621 dont on va déguster. Donc là, vous allez réaliser une assiette.
Qui sera pour moi ?
Et pour moi, on partage, je vous rappelle Elvira.
Pas sûr, on va voir.
Alors regardez, il y a un geste très assuré.
Donc j'ai déjà levé les filets du mulet et on va couper finement.
Il détaille des petits pétales en fait de chair de mulet, disposés en rosace un peu, c'est ça ?
Ouais, un petit peu en rosace. Alors je coupe le poisson toujours en un geste, on coupe pas du pain quoi.
Pour ça il faut un couteau très bien aiguisé.
Mais c'est mieux.
Le geste est sûr et d'une souplesse incroyable.
J'aimerais bien savoir faire ça.
Ouais.
Gaël Aurieux, qu'est-ce que vous pensez du mulet ?
C'est un poisson qui doit être plus mis en avant sur les tables, plus connu.
Et le mulet, en l'occurrence, ça se passe comment à votre table Auguste, dans le 7e arrondissement de Paris ?
Ça serait plutôt cru, moi j'aime bien, voilà, en carpaccio, voilà, exactement.
C'est vrai qu'il se prête bien cru, le mulet. Il a une chair légèrement viandeuse, agréable, et à la fois fondante en même temps. C'est une très belle texture. Alors, qu'est-ce que vous faites là, Sylvain ?
Dessus, je vais mettre un petit condiment qu'on peut retrouver dans le livre, où il y a de l'anchois, un petit peu de vinaigre, de la Guinelle, à Bagnouges, donc de chez moi.
Là, vous citez une très très belle vinaigrerie artisanale.
Excellente vinaigrerie.
Ah ouais, la Guinelle.
Excellente vinaigrerie.
C'est incroyable, mais je connais depuis mon plus jeune âge. Finalement, quand j'ai commencé la cuisine, je pense qu'elle a commencé à faire du vinaigre, donc j'avais 18-19 ans. On a des graines de fenouil à l'intérieur aussi, un petit peu de jus de citron.
Il y a une matière grasse ?
L'huile d'olive de chez Cédric Casanova, avec qui je collabore aussi.
Oui, huile d'olive sicilienne.
Élevée en Sicile, ouais. Donc, ça fait penser au mêlé de Martigues. Donc, c'est mon ami Julia Samout qui possède l'épicerie idéale, donc l'épicerie de dingue à Marseille, qui m'avait fait goûter ce condiment et qui m'a fait penser à un condiment que je faisais, mais sans faire attention qu'en fait, je m'approchais finalement du mêlé.
Sachant que le mêlé, on évoque évidemment une préparation fermentée à base d'anchois qui serait un peu le cousin du pissala, hein.
Oui, c'est un peu ça, ouais.
Vous ajoutez également un peu de végétal.
Un tout petit peu de radis pour un petit peu de croquant dans l'assiette. Amener un petit peu de fraîcheur également. J'utilise tout, je vais même utiliser les petites tiges, le petit verre.
Une bouchée, un commentaire de dégustation. Elvira, Jérôme Gagnez, à vous de jouer.
Bon, d'abord, c'est très satisfaisant visuellement. à la fois le poisson est comme ça, luisant avec un petit peu d'huile d'olive, la chair est magnifique. Il y a ces petits pickles de radis, quelques touches de vert et les graines de fenouil, c'est très joli, non ?
Oui, oui, ça fait très très envie. Pour le coup, ouais. C'est vrai que j'attache pas toujours beaucoup d'importance à l'esthétique d'une assiette,
ah bon ?
Me concentrant sur le goût, les saveurs, mais cette assiette est très jolie.
Mmh. C'est magique ça. Il y a le côté vraiment salin de l'anchois, la fraîcheur de la graine de fenouil, la mâche magnifique de ce mulet, qui résiste un peu sous la dent. C'est iodé, c'est salé, c'est parfumé. C'est vraiment, je sais pas, c'est top, non ?
Cette assiette me plaît énormément. Il y a de l'intensité, ouais. Il y a beaucoup de subtilité. Il y a un jeu de texture que j'aime beaucoup, parce que le poisson, effectivement, a de la mâche, il a du moelleux. Il y a le croquant du radis, il y a cette verdure qui apporte une petite pointe d'amertume et de végétal. La graine de fenouil qu'on peut rencontrer et croquer, c'est très réussi. Et il s'avère qu'avec le vin que je vous ferai goûter tout à l'heure, ça fonctionne très bien.
Ah, bonne nouvelle. Gaël Aurieux, vous avez tapé une petite bouchée ?
Une grosse bouchée. C'était vraiment très bon. Hein.
C'est bon ?
Ouais, très très bon. Très équilibré.
Intense. Il y a aussi de l'acidité. Hein. Franchement, bravo. Hein.
Est-ce que cet assaisonnement pourrait s'appliquer à d'autres poissons crus ?
Bah, avec le thon rouge, par exemple. On peut l'utiliser aussi avec du pajot, dorade rose. Ça marche avec pas mal de choses, ouais.
Alors là, ça commence très très fort sur des bases élevées. On va demander en réponse à Gaël Aurieux de nous préparer quelque chose. Alors Gaël, on vous a imposé un poisson blanc, toujours choisi par Charles Guériec. C'est la dorade grise.
La dorade grise, c'est un poisson que j'aime beaucoup. Je vais la cuisiner en frito.
Et Charles Guériec, notre expert de la mer, nous raconte le poisson qu'il nous a procuré. Les dorades grises ont été pêchées au filet droit par Xavier Ménesguen à Camaret. On est autour de la presqu'île de Crozon dans le Finistère. Son pic de pêche est entre octobre et mars. C'est une cousine de la dorade royale, bien plus économique. La dorade grise se trouve sur les étals, là aussi, entre 5 et 20 euros le kilo. Son seul défaut, paraît-il, c'est d'être un peu plus fragile.
Alors, les chairs qui se tiennent un peu moins bien, souvent, moi, j'aime bien les frire.
Et ben voilà.
Parce qu'elles se durcissent, en fait, en cuisson, et ça devient des chairs qui se resserrent, comme ça, et souvent, on a une belle cuisson.
Et ben justement, Gaël Aurieux, il est l'heure de rejoindre le plan de travail.
On y va.
Pour un frito de dorade grise.
Voilà. Alors là, c'est des dorades qui a été levée. J'ai complètement désarrêté, enlevé la peau.
Ouais.
J'ai coupé des petites bandes, des bandes qui doivent faire 1 centimètre à peu près, à peine.
Mm-hmm. Des aiguillettes, on va dire.
Des aiguillettes, voilà, en longueur. Et je coupe une feuille de brique en 4. Je pose une herbe. Alors vous pouvez prendre de la verveine, de la coriandre, du persil, de l'estragon, ça marche aussi très bien. Une herbe assez parfumée. Vous posez votre bout de poisson sur un des petits bouts coupés en 4 de votre feuille de brique et vous roulez votre poisson. Jusqu'à la pointe.
On fait un petit rouleau.
On fait un petit rouleau, bien serré, et vous piquez avec un cure-dent pour le fermer, en diagonale.
Impeccable. Feuilles de brique, on trouve vraiment les feuilles de brique absolument partout dans tous les supermarchés.
Vraiment partout. Ensuite, vous prenez une huile de friture. Alors, je vais vous donner un petit secret. Moi, j'aime bien l'huile de pépins de raisin, parce que j'en mets partout, parce qu'en fait, ça, même quand vous la faites bouillir, ça sent pas la friture. Et ça se ressent pas dans les aliments. Donc, moi, j'utilise que de l'huile de pépins de raisin pour cuire mes poissons ou pour faire mes fritures.
Très bien.
Donc là, des fritos, une fois qu'ils sont roulés, on va les mettre donc, dans cette petite friteuse, 180 degrés à peu près environ.
D'accord, alors si on n'a pas de thermomètre ?
Eh bien, c'est ce que je fais, parce que là, j'en ai pas. Donc là, j'ai pris des petits restes de feuilles de brique.
Ouais.
Je fais attention, je les tiens à la main et je teste ma friteuse. L'huile, là, est à bonne température. J'ai fait le test et là, je vais commencer à plonger quelques fritos. Voilà, hop, voilà, j'en plongeais 3-4 là.
Combien de temps de cuisson ?
Ça peut être moins de 5 à 10 secondes, comme un petit peu plus, 20-30 secondes. Alors, en général, quand c'est doré, c'est cuit.
Alors, donc vous débarrassez
sur du papier absorbant. Et très rapidement, je vais ajouter du sel ou de la fleur de sel.
Oui.
Et goûter, on enlève le petit pic et on sert tout de suite. Voilà. Ça, cette recette, je la fais beaucoup avec des langoustines, avec pratiquement tout. Voilà,
des poissons plats aussi, vous m'avez parlé de carrelet par exemple.
Alors, le carrelet, ça marche très bien. Et par exemple, la cardine, un poisson qui est très dur à poêler, voilà, qui ressemble un peu à une sole.
Mm-hmm.
Et ben, celui-là, frit ce poisson, il est excellent.
Donc la friture arrive au secours d'à peu près tous les poissons en quelque sorte.
Exactement. Donc là, j'ai la pression avec le plat d'avant parce qu'il était quand même pas mal.
Moi, je suis sûr que ça va être bien.
Ça sent bon. Hein.
Sylvain Roquerol à l'écrou.
Ah, moi, je suis gros fan de friture.
Voilà.
Ah oui, vous êtes généreux, Gaël Aurieux. Vous voulez acheter le jury, là ?
Bah, un petit peu, oui. C'est, donc là, on va mettre un petit gel d'agrumes. Alors ça, c'est juste du calamansi.
Bah là, on peut le faire avec du citron de Menton.
On peut le faire avec du citron. Alors, c'est un peu la fin, mais en ce moment, j'aime bien, c'est avec de l'orange sanguine.
D'accord.
Je fais bouillir, je rajoute un peu de sucre, un peu de vinaigre. Je mets un peu d'agar-agar. Ça prend gelé, on mixe. On met ça dans une petite pipette ou ce qu'on veut. On sert ça un peu comme de la moutarde.
C'est ça. Donc
un
c'est
petit condiment.
Un petit condiment d'agrumes. Alors, les assiettes.
Bah, je veux faire le service.
Lui, il est mieux que le précédent parce qu'on a une assiette chacun, là.
Merci, faites attention, chef. C'est très, très bon.
C'est bon, hein. Oh là là.
Là, j'ai assaisonné avec de la fleur de sel, mais c'est mieux avec du sel fin, en fait, d'assaisonner.
Ah oui. Voilà,
parce que ça, la fleur de sel, souvent, a tendance un peu à...
Il faut que ça adhère un peu plus.
Ouais. Voilà.
C'est bon.
Alors, vous pouvez rejoindre votre place, Gaël. Merci beaucoup. Qui veut se lancer dans un commentaire de dégustation ? Sylvain Rouquayrol.
Je trouve ça super bon. J'ai très étonné par le temps de cuisson. C'est ultra rapide, c'est hyper pratique finalement à l'apéro ou même un amuse-bouche, je trouve ça génial. Le jeu des textures, évidemment, c'est extrêmement bon. Il y a le croustillant, la fraîcheur de ce gel de calamansi, en plus c'est la saison. Et le poisson est hyper tendre, un peu comme dans un fish and chips.
Oui, c'est vrai. Parfaitement... très très fondant le poisson, c'est incroyable.
C'est vrai qu'il y a un petit côté fish and chips, mais plus raffiné.
Exactement,
plus délicat. Voilà,
c'est un super contraste de texture.
Ah ouais.
Une feuille de brie qui est admirablement croustillante et un poisson qui est très très moelleux.
Et ce qui est bien dans cette recette aussi, je l'ai déjà fait, vous pouvez les rouler, les mettre dans une boîte hermétique, les sortir le lendemain, les frire, ça n'a pas bougé et vous pouvez en avoir pour deux jours.
Ça, c'est vraiment un super tour de main. C'est quelques gestes pour un résultat vraiment bluffant. Votre recette, ainsi d'ailleurs que celle de Sylvain Rouquayrol dans vos livres respectifs, mais également sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Bravo, très haut niveau.
Là, ouais, c'est compliqué de les départager, là.
Mais non, mais de toute façon, on va être sur des matchs nuls, là. Vu le niveau, c'est...
Mais pas de notes.
Absolument incroyable.
Comment faire manger du poisson aux enfants ?
Ouais. On va déguster. Sur France Inter.
Elvira, il paraît que vous êtes mis à la fumette ?
C'est vrai, mais c'est un peu une tradition familiale.
Ah bah,
je viens de.
On va tout savoir.
Non, mais on associe quand même souvent les poissons fumés aux pays d'Europe du Nord.
Oui.
J'en mange depuis l'enfance. On en mange beaucoup en Suède, en Norvège. Mais il y a aussi une assez longue tradition française de fumaison du poisson, aussi bien du côté des poissons de rivière qui remontaient les cours d'eau comme l'Allier, la Doure, les rivières bretonnes, que sur le littoral. À Fécamp, à Boulogne-sur-Mer, on a traditionnellement toujours fumé maquereaux et hareng. Alors, bonne nouvelle, c'est une tradition qui perdure ou qui renaît à la faveur d'une jeune génération, les trentenaires qui reprennent des fumoirs existants ou qui créent leur atelier de toutes pièces, qui travaillent super bien. Et par super bien, j'entends dans le cadre d'une filière vertueuse, des poissons responsables, qu'ils soient issus d'une pêche côtière, locale, de saison évidemment, ou d'une pisciculture de grande qualité. En circuit court, les poissons arrivent de la pêche à l'atelier sans intermédiaire, en utilisant des techniques de fumage artisanales, naturelles, du temps, du soin, de la singularité, dans le respect du goût du produit, parce que l'idée c'est que le poisson ait un goût de poisson, plus que de fumée. En quantité raisonnable, ça qu'il n'y a pas de qualité en quantité, ça n'existe pas. Et c'est exactement ce discours que tiennent Bénédicte Baggio et Julien Marcotte, qui sont les fondateurs de Fumette. On a déjà parlé d'eux ici, on a déjà goûté leurs produits. Fumette, c'est un
même
fumoir...
Même aller les voir.
Exactement. Ils ont un fumoir artisanal du côté du bassin d'Arcachon, en effet. Ils travaillent des espèces sauvages abondantes, en direct, avec des petits pêcheurs locaux, des pêcheurs du bassin ou autour du bassin.
Mm-hmm.
Mulets noirs, thon blanc, maigres, dorades, maquereaux. Depuis 2020, ce sont ces poissons-là qui ont leur faveur, dans leur atelier qui est précisément à Lège, Cap Ferret, où se pratique le salage au sel de l'île de Ré, le fumage à froid avec un fumage au bois de hêtre, donc une essence assez douce, pas trop marquée, respectueuse de la saveur du poisson. Un fumage léger, réduit presque au minimum pour préserver au maximum la saveur de chaque espèce. Vous goûtez du mulet noir du bassin d'Arcachon, un poisson très abondant, pêché au filet, et vous goûtez également de chez Fumette une truite bio qui vient d'un élevage qui est top, un élevage au lac de Montbel en Ariège.
Mm-hmm.
C'est la ferme aquacole du Plantorel. Ce sont les deux poissons que vous goûtez. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh là là. Je trouve qu'il y a un fumage, encore une fois, délicat.
Délicat.
C'est pas la tête dans la cheminée.
Non.
Mais c'est quelque chose de...
Mais c'est le point commun du travail de toutes les personnes que je mets en avant aujourd'hui. Il y a pas mal d'adresses sur le site de l'émission. C'est que le fumage est délicat. L'idée, c'est que le poisson a le goût du poisson et qu'on sente vraiment le goût de ce qu'on mange et la texture. Et que la fumaison ne soit pas un prétexte à masquer le goût du poisson.
Ça va, vous aimez ?
Oui, excellent.
Vous aimez ?
C'est extraordinaire.
La truite ou le mulet, les deux?
Moi j'ai préféré le mulet, les deux sont très très bons. Le mulet c'était intéressant, même la texture c'était chouette. Il n'y a pas trop de sel et avec le vin blanc en plus c'est super.
Autre lieu, mais même engagement, chez Éric Barnou, de la fumerie du coin, dont l'atelier est à Jouy-en-Josas. Alors c'est moins exotique.
Là on est en banlieue parisienne. Ouais.
Alors à 20 ans, Éric fumait des poissons au fond du jardin de ses parents. Il a travaillé comme commercial avant de quitter son job et de suivre sa passion. Il a ouvert sa fumerie en 2017. Sardines, mulets noirs, maquereaux, thon, truite, Saint-Jacques sont salés au sel de Guérande, évidemment sans aucun additif, avant d'être fumés au bois de hêtre. Et puis après, il y a 3 à 5 jours de maturation en salle d'affinage avant d'être mis en vente à la fumerie directement. Et on trouve ces poissons fumés également au marché de Versailles. Notamment, tiens, aujourd'hui, dimanche.
Ah, très bien.
Et là, vous goûtez de la truite fumée qui vient d'une petite ferme piscicole en Haute-Normandie, la pisciculture de Vatierville. Vous goûtez également des noix de Saint-Jacques fumées.
Ah, c'est
épatant. Alors, c'est des noix de Saint-Jacques. Alors, je ne sais pas d'où viennent celles-ci. Elles viennent soit de la baie de Seine, soit de la baie de Saint-Brieuc. Ça dépend des périodes.
C'est vraiment étonnant. Hein.
Vous avez quoi? Vous avez poivre de Timut, non?
Oui.
Eh bien, je trouve ça génial.
Oh là là, ça c'est... Non, mais la texture.
Texture.
De la Saint-Jacques, oui. Un peu plus viandeuse.
Voilà. Et assaisonnement parfait, fumage parfait. Et également du maigre fumé, voilà, du maigre pêche de petits bateaux, de noirmoutier. Encore un travail épatant. Et du talent et de l'engagement, comme celui de Bénédicte et Julien, comme celui d'Éric. Il y en a plein d'autres, partout en France. Vous retrouverez les adresses que j'ai glanées avec l'aide précieuse de Salomé Costagliola et de Thomas Darcos, ici présent, qui est en train de faire le service de ces poissons fumés, sur le site de l'émission.
Merci beaucoup, ces deux sacrées découvertes. C'est un vrai truc quand même, la noix de Saint-Jacques fumée, vous en pensez quoi, les chefs?
Moi, je trouve ça super, j'avais déjà goûté, mais pas comme ça. Là, avec le poivre de Timut, c'est génial, quoi. Ça vient ramener le petit kick nécessaire. Ouais.
Ils en font une aussi au piment fumé du Béarn, qui est hyper bien.
J'ai été l'année dernière en Norvège, souvent ils ont tendance à trop fumer. Pays nordique, il y a même un petit goût ferré, limite métallique.
Ouais.
Et je trouve que tous ces jeunes là qui s'installent et qui font des fumées en France font des choses très subtiles, voilà, très équilibrées et avec une belle pêche durable.
Merci beaucoup Elvira pour ces découvertes.
D'autres adresses sur le site?
J'en signale une, le fumoir de Saint-Ca en Bretagne Nord, qui fume aussi de la coquille Saint-Jacques, de la baie de Saint-Brieuc et de Saint-Malo. Et c'est un super travail et je retrouve dans les Saint-Jacques qu'on a là, je retrouve cette subtilité, cette délicatesse. On passe plus un apéro quand on est en Bretagne sans manger des Saint-Jacques fumés, du fumoir de Saint-Ca.
Merci très, beaucoup très bon pour ce bon plan.
Je mettrai l'adresse en plus de celle de...
Je la rajouterai.
Merci beaucoup Elvire.
J'ai un bon plan à Marseille aussi également. Maison Mathieu.
La Maison Mathieu.
La Maison Mathieu.
Pour des poissons fumés. Gaël Aurieux, Sylvain Rouquayrol, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième épreuve?
Allez, c'est parti. Allez,
attention, c'est au tour d'un poisson bleu mystère. Ce poisson bleu, il est là. Est-ce que vous l'avez reconnu?
Le chinchard.
Charles Guerriec nous dit que ces chinchards ont été pêchés au filet droit par Brendan Galvin au large de Loctudi. On est dans le Finistère. Après 2 ans de fermeture côté Atlantique pour préserver les stocks, la pêche reprend avec de bons signes du terrain. Il y a du chinchard et c'est une bonne nouvelle. Le chinchard est majoritairement exporté vers l'Espagne, le Portugal, voire le Japon. Il est boudé en France. Inversons la tendance, vous êtes d'accord?
J'ai rencontré beaucoup de chinchards au Portugal, un peu moins en France. Il est un petit peu mal aimé ici.
C'est vrai.
Il a un avantage, c'est qu'il est peu onéreux. Et la chair est incroyable. Il est aussi bon cuit que cru.
Comment vous définiriez la chair du chinchard, Gaël Aurieux?
C'est une chair que j'aime bien, pareil, crue, voilà, comme l'affectionnent les Japonais. Mais il faudrait sortir un peu de ce nom de poisson, parce que vous savez le nom qu'il porte en France souvent?
Non.
Ça s'appelle le macro-bâtard.
Alors, c'est pas très
joli, mais c'est pas sympa, mais ça veut dire, ça porte bien son nom, ça veut dire qu'on ne l'aime pas trop. Quoi,
c'est voilà. Ça, parce qu'effectivement, le chinchard est dans la grande famille des poissons bleus, donc c'est un cousin plus ou moins éloigné du macro, de la lisette, de la sardine. Et là, vous allez nous le cuisiner.
Voilà, en carpaccio, tout simplement.
En carpaccio, et pour Sylvain Rouquayrol,
en tartare.
Ah, donc c'est une battle crue au plan de travail, les chefs. Vous avez 2 minutes pour nous dresser. Vous êtes côte à côte, devant nos micros, pour nous dresser une assiette. Sylvain Rouquayrol, racontez-nous.
Alors là, j'ai une préparation à base de gochujang.
Oui.
Le gochujang, c'est une pâte de soja et de piment fermenté, origine de Corée. Nous, on la customise, si je peux dire, avec du romarin, du miel, de l'ail.
Pour lui donner l'accent provençal.
Exactement. Et il y a un petit peu de sauce soja également aussi, et un petit peu de graines de cumin.
Donc vous faites un assaisonnement au fond du saladier, vous avez disposé votre chinchard coupé en tartare.
Coupé en petits dés, donc en tartare. J'ai avec moi un emporte-pièce.
Oui.
Une assiette plate. Je vais venir le dresser comme ça, dans le cercle.
Ah, vous faites les choses bien.
Et en fait, je vais mettre des condiments, comme un tartare de bœuf un peu. Donc je vais avoir des échalotes en brunoise, un petit peu de cornichons en brunoise, un petit peu de capre, un petit peu de blanc d'œuf.
Non.
Un petit peu de jaune d'œuf.
Ah oui.
Puis un petit peu de persil. Et au milieu de ça, je vais mettre un petit jaune d'œuf. Puis je vais me positionner à côté de vous et on va mélanger tout ça ensemble.
Qu'est-ce qui se passe du côté de Gaël Aurieux ?
Alors, j'ai coupé le chinchard, j'ai enlevé la peau, l'ai coupé vraiment un peu escalopé, voilà, avec des morceaux quand même assez gros.
D'accord.
Et là, je vais faire quelque chose que je fais régulièrement. Alors ça, je fais ça d'habitude avec des huîtres, mais là, je le fais avec le chinchard.
Oui.
Je fais des poires, en fait, que j'ai coupées en petits dés, j'ai enlevé la peau, je les ai coupées finement.
Vous avez fait une brunoise, en fait ?
Une brunoise, voilà, et je les ai fait mariner dans du jus de citron jaune. Voilà, je rajoute un petit peu de jus de citron en plus sur mon chinchard. Et là, on va mettre de la poudre de citron noir.
Vous avez perlé un peu d'huile d'olive ?
Une petite huile d'agrumes, voilà.
Et alors, ce citron noir, on parle là d'un petit miracle d'origine iranienne.
Iranienne, et c'est du citron vert qui a juste été blanchi et séché au soleil. Voilà.
Et ensuite, quand vous le râpez, c'est une vraie épice.
C'est une vraie épice, en fait, ça devient tout sec, c'est tout léger. Je le mixe, je le passe au tamis et j'assaisonne avec ça.
Mais c'est très délicat, le citron noir.
C'est très, très délicat.
Et on trouve le citron noir dans de très nombreuses épiceries orientales.
Épiceries iraniennes ou orientales.
Et ça vaut vraiment le coup de se procurer du citron noir qu'on peut aussi acheter en ligne, évidemment.
Gaël, c'est pas pour dire, mais Sylvain est prêt. Hein.
Ah, mais je vais accélérer.
Non mais attendez, regardez ce tartare de chinchard avec quand même ce jaune d'œuf au milieu. Là, c'est un vrai trompe-l'œil. Hein. On a l'impression d'un tartare de viande. Ça y est, nos deux assiettes ont été servies. Alors, on attaque d'abord par le carpaccio de chinchard, signé Gaël Aurieux.
Voilà. C'est bon. C'est très simple, il n'y a pas grand-chose
en fait.
C'est
très simple, très simple.
C'est très épuré.
Mais c'est en même temps sur la vivacité. Sylvain Rouquayrol.
Ouais, moi, j'adore le plat. Et là, je trouve que visuellement, c'était très organique. On aurait presque dit un paysage. J'adore la simplicité. De toute façon, je pense qu'avec le poisson cru... Il faut quand même garder, comme on parlait tout à l'heure avec la fumaison, il faut quand même garder le goût du poisson, c'est hyper important. Moi, j'adore.
Et puis, il y a cette poire. Moi, j'aurais pas imaginé poire et iode forcément ensemble. Ça vient donner une petite note suave, comme ça. C'est pas sucré. Et ça fonctionne vraiment super bien, quoi.
Et vous pouvez le faire avec des pommes aussi, ça marche très bien.
On passe au tartare de chinchard, signé Sylvain Rouquayrol. Alors, qu'est-ce qu'il doit mélanger ?
Elvira, elle connaît. Vous mettez un trait de jus de citron.
Oui.
Voilà, un trait d'huile d'olive. Puis on va mélanger.
Mélanger la fourchette. Donc là, on mélange les herbes, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf.
Bon, c'est bon là maintenant, il faut qu'on goûte. C'est un tartare de bœuf au chinchard. Il y a le poisson qui est très présent, mais pas tant dans sa dimension aromatique que dans sa texture, de moelleux, de mâche. La condimentation du tartare est merveilleuse, qu'on a vraiment l'impression d'avoir un tartare de bœuf. C'est une vraie découverte, ce chinchard, traité de cette façon-là par Gaël et Sylvain. Vraiment, c'est acheter du chinchard. Chers auditeurs, acheter du chinchard.
Dans deux univers totalement différents. Et en plus, le chinchard, là encore, est à moins de 15 euros le kilo sur les étals. C'est la saison, profitons-en du chinchard, évidemment, à condition qu'il soit bien frais. On s'en assure auprès de son poissonnier. Mais c'est vraiment extraordinaire ce tartare. Et puis il y a l'accent coréen de ce gochujang qui chauffe légèrement le palais, mais pas trop. Il y a de la rondeur aussi, hein. C'est un plat très flatteur. Il y a le gras qui apporte évidemment le jaune d'œuf cru. Enfin, c'est extraordinaire.
C'est excellent. Puis on a surtout le visuel. On a vraiment l'impression d'avoir.
C'est très beau.
Et le cornichon avec du poisson, c'est relativement inattendu et ça fonctionne très bien.
Mais vos deux plats sont vraiment très beaux aussi.
Bravo. Là encore,
merci beaucoup.
Encore une fois.
C'est du très haut vol. Ça nous fait plaisir parce qu'on est dans deux expressions différentes avec à chaque fois des propositions vraiment singulières et personnelles. Bravo, bravo. Dans un instant, la troisième manche de ce duel avec une carte blanche. Sylvain Rouquayrol, Gaël Aurieux, vous avez choisi votre produit de la mer et votre recette. On va aussi évidemment profiter de l'accord liquide de notre ami Jérôme Gagnez.
When you're right, you said straight spine.
myself shout. Felt the air on my skin and let my hair down. I don't really know if I'll come back to this town, but at least I'm here right now. With my heart between your hands in Phoenix, knew that I'd survive 'cause you made me believe it. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just bend. You say don't break, so just if you free fall, can't help but hit the wall. Promise it's not your curtain call. Swear there's so much more, so much that's wonderful, and I'll be by your side through it all. So just take a breath in, you can let yourself shout. Feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town, but at least we're here right now. With your heart between my hands in Phoenix, knew that we'd survive 'cause you made me believe it. When you're under attack and your world feels like it's coming to an end, I'll say don't pray, just with my heart in your hands spilling over and my head resting right on your shoulder. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't.
Phoenix, le nouveau titre de la chanteuse britannique Optala.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Si vous prenez cette émission en cours, sachez que nous avons convoqué au plan de travail d'On va déguster deux grands chefs très réputés pour la cuisine marine. Gaël Aurieux, chef d'Auguste, à Paris, 7e, auteur de Cuisine et la mer, un bouquin best-seller désormais devenu un classique, présent dans très nombreuses bibliothèques culinaires aux éditions de La Martinière. Et puis, un petit nouveau, c'est Fiche, signé Sylvain Rouquayrol. Et Sylvain Rouquayrol, il est à la tête d'une adresse dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une adresse qui a énormément de charme et de succès. On est à Marseille, dans le port des Goudes, les pieds dans l'eau. Et il fait une cuisine, sa cuisine de voyage, et en même temps très enracinée dans Marseille. La troisième manche de ce match amical autour de la mer concerne cette fois-ci une espèce marine que vous avez librement choisie. Pour une fois, on ne vous l'impose pas, c'est votre carte blanche. Dites-nous juste ce que vous avez choisi comme espèce et pourquoi, Gaël ?
Crevette grise.
Crevette grise, et pourquoi ?
Parce que j'en ai fait un bouillon.
voilà, c'est une très très bonne raison. Sylvain Rouquayrol ?
Les coques, principalement pour la pêche à pied.
Et en plus, c'est un très joli coquillage qui, là encore, est assez bon marché. Les coques, on peut vraiment se faire plaisir pour des prix tout à fait modérés.
On peut surtout les ramasser soi-même.
Et on peut les ramasser soi-même si on a la chance d'être...
Au bord de la mer, évidemment.
Au bord de...
Oui, on en trouve moins facilement boulevard Saint-Germain, mais sur les plages en Bretagne, on en trouve plein.
Troisième épreuve, c'est parti. Alors, vous avez triché un petit peu, Gaël Aurieux, ou plutôt, vous avez profité de notre pause musicale pour réchauffer une espèce de petit bouillon instantané qui nous titille les narines. Il est sous nos micros. Avant même de dévoiler la recette, petit commentaire de dégustation, chers amis. Elvira.
Je ne sais pas, c'est comme un consommé suave, d'une puissance aromatique incroyable, d'une grande complexité. C'est vraiment une merveille.
Il y a un côté vraiment... Allez, on va lâcher le mot, qu'on lâche un peu trop souvent, mais il est là, cet umami.
Complètement.
Cette saveur persistante qui procure un profond bien-être. Jérôme Gagnez.
J'ai mis le nez dedans, j'ai goûté. Il y a cette très légère sucrosité qu'on trouve dans la crevette. C'est un concentré de crevettes, ni plus ni moins. C'est admirable de précision.
Il y a un petit goût de bisque, alors que c'est translucide, enfin transparent.
Bon, mais il y a de beaux commentaires, visiblement. Hein, ouais, ça... Il y a Gaël Aurieux qui affiche un joli sourire. Sylvain Rouquayrol.
Ouais, c'est vrai qu'il y a la densité de la bisque, comme Elvira a énoncé. Pour moi, c'est un coussin. J'ai envie de remplir ma gourde et de partir avec à la maison.
Quoi. Tout en ayant la texture d'une tisane, d'une infusion, hein, avec la couleur d'ailleurs d'un thé légèrement ambré. C'est absolument prodigieux. Révélation de cette recette, Galorieux.
Eh ben, c'est la recette la plus facile à faire au monde.
Non.
Si, eh ben, en fait, c'est des crevettes grises. Vous les mettez au fond d'une casserole. Vous mettez de l'eau 5-6 cm au-dessus, voire 10 si vous voulez. Et dedans, vous mettez des tomates coupées en quatre, des poireaux, du céleri, des carottes, un peu ce que vous avez dans le frigo, du gingembre. Là, j'ai mis des bâtons de citronnelle aussi. Et là, vous laissez cuire pendant une heure et demie, suivant l'infusion que vous voulez, comme une tisane, mais dont le goût tourne pas. Et ensuite, vous la filtrez, vous pressez un petit peu, et ben voilà, c'est fini.
Il s'agit de crevettes grises cuites ou crues ?
Alors, vous pouvez prendre cuites ou crues, ça marche, les deux marchent. Voilà, et ça, il n'y a pas de problème. Et à peu près pour 500 grammes de crevettes grises, il vous faut 5 tomates, un poireau, un demi-oignon, une carotte.
Si on n'est pas en pleine saison de la tomate, est-ce qu'on peut se tourner vers des belles tomates en boîte italiennes ?
Alors, là, j'allais vous dire, même des mauvaises tomates, ça ne gêne pas. Voilà, c'est okay. Ce qu'en fait, la recette...
Bon, on dira
non,
à personne.
Non, non, mais ça vous aide ça vous aide à clarifier le bouillon. Parce que le bouillon est très translucide, vous voyez.
Voilà.
Et il n'y a que les tomates qui nous amènent ça. Et si vous le faites à la saison des tomates, bah, c'est encore meilleur. Et j'ai fait cette recette sur une erreur. J'avais raté un consommé, c'est très compliqué à faire, de langoustine. Je me suis dit, j'en ai besoin pour ce soir, comment je veux faire ? J'ai fait cette recette, et à l'époque, je travaillais au Meurice, et le chef m'a dit, j'ai jamais goûté un bouillon si bon, tu l'as vraiment bien réussi. J'ai dit, ah, comme d'habitude, chef. Voilà.
Et le chef était
Yannick Aleno.
Yannick Aleno, il va être content de l'apprendre. Voilà. Vous l'avez filouté, ça va lui faire plaisir.
Ça fait plus de 20 ans.
Bah, bravo, mais non, mais évidemment...
Il y a prescription.
Il faut toujours avoir un instinct de survie en cuisine, exactement. Surtout quand on est sous la pression de grosses brigades. Bravo, hein. Là franchement, vous mettez la barre très très haut pour cette troisième manche. Sylvain Rouquayrol, coq. Alors là, il y a un petit geste au-dessus de la plaque de cuisson.
Donc, je vais mettre au fond de la casserole, je vais mettre un filet d'huile d'olive. On va faire revenir des petites pétales d'ail que j'ai coupées à la mandoline. L'équivalent de deux gousses.
D'accord.
Là, j'ai approximativement 400 grammes de coque. Mm-hmm. C'est bien pour deux personnes.
Parfait.
Je fais revenir l'ail. Je vais rajouter deux piments oiseaux. Vous aimez quand ça pique ?
Oui.
Oui.
Allez, j'en mets un troisième.
On aime, on adore ça.
Oui, mais enfin, quand même, trois piments oiseaux, c'est... Ça va chauffer, quoi.
Là, je vais rajouter les coques. Ah ouais, je les ai dessablés pendant deux heures, avec un peu de gros sel.
Très bien.
Un petit peu de vin blanc, et maintenant à couvert, pendant approximativement deux minutes.
Ah ouais, donc là aussi, c'est vraiment une recette instantanée. Il n'y aurait pas une inspiration...
Italienne.
Ah, moi je dirais...
Ah, on dit vongolais un peu.
Ah oui, un peu alors vongolais, ça peut être sud de l'Italie, ça peut être aussi un peu Portugal aussi, non ?
Un peu Portugal, ah oui. Notamment, c'est un peu marinière également.
Aussi, c'est vrai. Mm-hmm.
Ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser les coques. Et je vais finir le jus. Donc, je vais le réduire un petit peu et je vais rajouter un petit peu de beurre pour la texture et pour la gourmandise.
Et pour une petite liaison.
Exactement. Je vais venir rajouter le beurre. Une vingtaine de grammes. Voilà, on fait réduire tout ça. Donc le jus, je le verse sur les coques. Donc ça va venir réchauffer les coques. J'en mets un peu partout. On va venir perler ça avec un petit peu d'huile d'olive. Allez, c'est parti, service. Trait de citron et un petit peu de persil.
Que c'est beau ! Sylvain, vous nous rappelez l'intitulé de ces coques ?
Bon, on va les appeler les coques piri-piri.
Je propose à notre ami Jérôme Gagnez un véritable exercice de style. Vous allez verser le vin et voir si ça s'accorde avec les coques de notre ami Sylvain Rouquayrol.
On va déguster sur France Inter.
Moi, de toute façon, que je mange des huîtres ou du poisson, je marche au vin rouge.
Je marche au vin blanc et je marche au vin blanc de Corbière, monsieur.
Ah !
Corbière, je rappelle, c'est dans le département de l'Aude, au sud d'une ligne qui relie Narbonne et Carcassonne.
Mm-hmm.
C'est un vaste territoire, presque, oui, en gros, 10 000 hectares. Devine, c'est la plus grosse AOC du Languedoc. On fait que 3% de blanc. Et quand je goûte ce vin blanc, je me dis, bah, c'est bien dommage de ne pas en faire plus. On goûte un vin qui s'appelle la cuvée Les Jumelles, mm-hmm. le château de Luc, Corbière blanc, Grenache blanc, Roussanne, Marsanne. Et alors, j'ai beaucoup aimé ce vin pour une raison extrêmement simple. C'est que j'ai l'impression que les vignerons dans le Languedoc cherchent à faire des vins comme s'ils étaient vignerons sur les rives de la Moselle, avec des équilibres de Riesling Mosellan. Autrement dit, très peu d'alcool, beaucoup d'acidité. Si on veut faire des Riesling Mosellan, eh ben, il faut aller sur les bords de la Moselle. Mais si on est à Corbière, eh ben, on fait des vins de Corbière. Or, ce vin, il a une très grande vertu, c'est que, comme je le disais en introduction de cette émission, le grand Jacques Puzet disait quelque chose d'extrêmement simple, mais d'extrêmement juste.
Rappelez-nous qui est Jacques Puzet,
qui a créé l'Institut du Goût. C'était un œnologue ligérien, une immense figure du monde du vin et du goût. C'était un homme exceptionnel, réellement exceptionnel. Pour ceux qui ont eu la chance de le croiser, le rencontrer, il était exceptionnel. Et donc, voilà, il disait, le vin doit avoir la gueule de l'endroit et les tripes du bonhomme ou de la bonne femme qui l'a fait. Eh bien, nous avons ici un Corbière qui a la gueule de l'endroit. Et la gueule de l'endroit, bah, ça veut dire un vin qui a de la chair, qui a du gras, qui a de l'ampleur. Il y a une très belle amertume, il y a une belle aromatique sur le fruit, parce que là, pour le coup, notre copine la Roussanne, qui a été récoltée mûre, elle apporte ce côté fruit jaune, abricot, une forme de sensualité, en fait, au nez. Et puis, en bouche, il y a du volume, il y a du confort. C'est un vin qui s'est accordé avec tout ce qu'on a goûté ce matin et qui a apporté à chaque fois en contrepoint son amertume, son gras, des notes de fruits. Et donc ici, on est en train de goûter...
Ah bah quand même, il attaque enfin les coques de Sylvain Roquerolles.
Mais oui, mais parce que je parle de la famille Fabre, qui est une famille extraordinaire. C'est 300 hectares de vignes qui sont en bio, en Corbière et Minervois. C'est 150 hectares de grandes cultures. Ce sont des cognassiers. Le fils André est en train de faire un conservatoire de cognassiers parce qu'il adore cette plante. Il en a fait d'ailleurs un pétillant naturel, Vainera, absolument délicieux. C'est un très beau domaine familial depuis le XVIIe siècle. Ils sont en bio, ils font des beaux vins, ils font notamment, encore une fois, cette cuvée Les Jumelles en Corbière. 2023, c'est 11 euros au domaine.
Wow.
Allez au château de Luc, c'est à Luc-sur-Orbieux, dans les Corbières, juste en dessous de Lézignan Corbière. Et il y a, pour les familles, un escape game sur le vin qui retrace l'histoire du vin dans les Corbières, qui est admirable. Et donc la famille Fabre, eh ben, ils travaillent beaucoup, ils cherchent plein d'idées pour faire venir les gens, pour leur faire découvrir leur région, leur terroir. Et à côté de ça, il y a des très jolis vins. Bravo la famille Fabre et merci beaucoup pour ces jumelles 2023 Corbière Blanc Château Le Luc à 11 euros au domaine.
Vous confirmez que l'accord se passe bien avec les coques Piri-Piri de Sylvain Roquerolles ?
Oui, je confirme que ça se passe très bien. La pointe de piment qu'on ressent dans ces coques, le gras du vin vient enrober, vient caresser cette pointe et apporte un contrepoint qui est bienvenu. Mmh. Ça fonctionne très très bien.
Un petit commentaire Gaël Aurieux sur les coques du copain chef.
Ouais, elles sont vraiment, c'est excellent. Et en plus, elles sont restées hyper moelleuses. Quoi. Puis il y a ce petit côté piment là.
Moelleuse et juteuse.
C'est vraiment parfait.
C'est pimenté, c'est iodé, c'est végétal, une petite pointe de vin blanc, c'est parfait.
C'est vrai que ça se passe très bien avec ce Corbière. Mmh. Franchement, un immense bravo, c'est délicieux. Jérôme Gagnès, vous avez aussi... Allez, on finit par cette excellente nouvelle.
Ben, je suis très heureux. Je vais intégrer le comité de dégustation de la Revue du Vin de France et j'aurai la très grande joie de m'occuper justement du Languedoc en tandem avec une journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Karine Valentin. Et on va former un tandem de choc tous les deux et on va sillonner et parcourir le Languedoc pour la Revue du Vin de France. Donc je suis très très content de rejoindre cette très 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 belle équipe.
Et oui, prestigieuse revue, la Revue du Vin de France. Ouais. On est ravis que vous intégriez cette équipe sauvage de dégustateurs et dégustatrices. Bravo. Un grand bravo.
Merci.
Jérôme Gagnès, vous le méritez énormément.
Merci beaucoup.
On arrive au terme de cette émission, un grand bravo, cher chef, vous nous avez absolument régalé. On se disait là en coulisses que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas aussi bien mangé sur le plateau dont on va déguster. C'est un grand compliment que je vous fais. Gaël Aurieux, Cuisiner la mer, 70 espèces, 90 recettes aux éditions de la Martinière, dont les merveilleux tours de main et les merveilleuses recettes que vous nous avez proposées aujourd'hui, avec les textes de Julien Bourret et les photographies de Jean-Claude Amiel. On retrouve votre très belle cuisine aussi, évidemment, chez Auguste. Joyeux anniversaire à Auguste.
Merci.
Qui fête ses 20 ans, je crois qu'il y a 20 ans, j'étais dans les premiers...
Vous étiez le premier jour d'ouverture, je crois que vous étiez là.
Ouais, ça ne me rajeunit pas.
Voilà.
Comme quoi, j'étais assez réactif à l'époque.
Ouais.
Et Sylvain Roquerolles, Fiche, cuisiner le poisson de Marseille à Tokyo, aux éditions du Chêne. Un immense bravo à votre épouse, Delaney Inamine, qui a fait un travail remarquable. C'est elle qui a shooté toutes ces photos absolument solaires. C'est elle qui a également signé les illustrations, la maquette du livre. Franchement, c'est
magnifique.
Un livre absolument génial. Il a un succès mérité et ce succès va continuer. Merci beaucoup, Sylvain.
Merci beaucoup.
Et vous nous rappelez évidemment l'adresse de votre table marseillaise.
Tuba Club.
qui est ouvert hein, en ce moment.
Qui est ouvert en ce moment.
Et qui a toujours autant de succès.
Année.
Et un succès mérité. Et merci à Charles Gaillac pour ces beaux poissons tout frais, qu'on peut retrouver évidemment, Chinchard et compagnie, en circuit court et en petite pêche française, sur poissky.fr. La semaine prochaine, attention, sauce soja. Elle est arrivée en France avec les sushis au milieu des années 80. Elle est aujourd'hui omniprésente dans nos assiettes. On vous dit tout sur ses différents types, sur ses usages en cuisine, ses traditions, avec nos invités d'origine japonaise et chinoise. Salut Jérôme, salut Elvira, à bientôt.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.